Je vous remercie d'être ici pour accueillir Philippe Forest. Alors, Forest. Non, je m'étais amusé un petit peu parce que dans le livre, vous faites allusion à ce problème du S. Alors, il y a des auteurs comme ça qui ont... Il y a un problème, il y a Faulkner, il y a le U qui apparaît à un moment donné. Il y a l'accent de Ségalène qui disparaît, lui, quand il devient auteur. Enfin, c'était une petite anecdote en passant, comme ça. Donc... je ne suis pas du tout critique professionnel, donc mon approche serait plutôt celle d'un amateur. Et j'ai découvert ce dernier livre dans l'extrait qui était sorti dans la RF, et je m'étais dit, tiens, voilà le livre pour moi de la rentrée. Et en lisant l'entretien qui suivait l'extrait, où vous abordez un petit peu ce problème du rapport entre l'intime et l'extérieur. J'avais trouvé cette réponse qu'avait fait William Faulkner en 56 dans un entretien, et il avait dit « Un livre, c'est la vie secrète de l'auteur, le jumeau sombre de l'homme, vous ne pouvez les réconcilier. » Alors, vous, est-ce que vous reconnaissez dans ce livre un jumeau sombre ?
La question de la gémelléité est présente dans le livre, puisque je parle, j'évoque dans l'autoportrait que je propose le fait que je suis né sous le signe des Gémeaux, qui est un signe aérien, et puis aussi le fait que ce soit un livre qui aborde la question des relations entre père et fils, eh bien ça soulève immédiatement cette question de la rivalité éventuellement, et de l'identité entre deux individus. Mais je crois que ce que Faulkner visait, c'était quelque chose de différent. Il a raison. C'est-à-dire, il y a toujours un contresens lorsqu'on s'imagine que un livre est la traduction directe de l'existence de celui qui en fut l'auteur. Mmh. En réalité, c'est un, comme le dit Proust, en fait, c'est un autre moi que le moi social qui se trouve engagé dans l'acte de la création littéraire. Et c'est sans doute un moi plus sombre que celui qu'on expose au regard des autres.
Oui, c'est un livre qui mêle d'une façon alors particulièrement, j'ai trouvé, subtile et riche, l'intime d'un côté et la vie du siècle de l'autre, et qui les lie d'une façon à créer un tissu littéraire, un peu vraiment comme une étoffe, enfin, comme s'il y avait deux couleurs dans ce livre. Et ça m'a fait penser à, on dirait que c'était obligé, au tableau de Bruegel de la chute d'Icare, qui est à Bruxelles, où, quand on sort dans le tableau, Icare est, enfin, on devine Icare dans l'eau, et juste on voit deux petites jambes qui s'agitent, mais ça ne trouble pas apparemment les travaux et les jours qui se déroulent autour. Mmh. Et c'est, il m'a semblé que votre livre reprenait un petit peu justement toute cette thématique. Est-ce que c'était aussi votre but, votre...
Je n'ai pas eu présent à l'esprit le tableau que vous évoquez, que je connais bien sûr, mais vaguement. Donc ce que vous en dites me permet de me rafraîchir la mémoire. Mais la comparaison que vous proposez est très juste, parce que c'est vrai qu'autour du drame de l'aviation, parce qu'effectivement l'histoire de l'aviation, c'est... Du moins, ce qu'on en retient, c'est surtout l'histoire des accidents de l'aviation, hein, depuis Guillaumet s'écrasant dans les Andes, jusqu'à Mermoz disparaissant au-dessus de l'Atlantique Sud, ou bien jusqu'à l'accident au récent accident de l'Airbus d'Air France qui s'est perdu dans l'Atlantique, pas très loin d'ailleurs du lieu où s'était déroulé le crash de Mermoz, pour autant qu'on le sache. Donc l'histoire de l'aviation, c'est essentiellement l'histoire des accidents de l'aviation. Mais en même temps, mon ambition, c'était, autour de ce drame-là, de raconter toute l'histoire du XXe siècle, d'une certaine manière. Alors bien sûr, c'est une ambition qui est excessive, et du coup, j'allais nécessairement à l'échec, mais je pense que... C'est le propre de tous les livres que de se confronter comme ça à la perspective de leur échec. Voilà, mais il y avait effectivement cette volonté-là, c'est-à-dire de ne pas m'en tenir à l'histoire de l'aviation, mais d'essayer de proposer à partir d'elle un tableau un peu épique du XXe siècle.
Mais il y a aussi cette dimension aussi d'un fils qui part à la recherche de son père.
Oui, vous m'amenez sur un terrain qui m'intéresse, Dédale et Icare, effectivement. Hein. Sauf que là, c'est un fils qui observe la chute de son père, et non pas l'inverse. Et bon, ça me fait penser bien sûr à des tas de choses, comme par exemple à la présence de Smith chez Joyce, à travers le personnage de Stephen Dedalus, ou encore à un livre dont je m'aperçois qu'il est assez peu lu. Je pense que je peux le dire, je ne pense pas trahir un secret. On nous a demandé, pour les 100 ans des éditions Gallimard, de réfléchir, on a demandé à un certain nombre d'écrivains de réfléchir à ce qui était pour eux le livre le plus représentatif du XXe siècle, le roman le plus représentatif du XXe siècle. Et le livre que j'ai choisi et auquel j'ai consacré un texte, donc il devrait paraître d'ici quelques mois, c'est le roman de Blaise Cendrars qui s'intitule « Le lotissement du ciel » et qui est très largement consacré à cette question de l'aviation, et notamment à travers cette expérience qui, pour moi, est cruciale, qui est celle du deuil, et du deuil parental, puisqu'en fait, Cendrars, j'y pense en répondant à votre question, Cendrars raconte la mort de son fils, à laquelle il assiste imaginairement, hein, tel Dédale assistant à la perte d'Icare. Le fils de Cendrars était pilote dans l'aviation pendant la Seconde Guerre mondiale, et il est mort aux commandes de son appareil en Afrique du Nord. Et donc voilà, je me laisse entraîner par des associations d'idées, je ne sais pas si c'est très cohérent, mais c'est un peu pour réagir à l'image que vous m'avez soumise de ce tableau de Bruegel.
L'extrait m'avait beaucoup séduit, mais quand j'ai découvert le livre, pour rien vous cacher, en descendant d'avion quasiment, je l'ai acheté le lendemain, je me suis aperçu à ce moment-là de la complexité, de la richesse de la construction. Parce que le prologue, pour moi, ça me faisait penser un peu à Télémaque dans l'Odyssée. Hein. C'est-à-dire qu'on voit tout d'un coup le narrateur qui devient le fils et qui devient aussi en même temps un héros du livre, quoi, en quelque sorte. Hein. Et c'est lui qui, à ce moment-là, après ce démarrage... On part à la recherche de l'histoire du fils et de chapitre en chapitre va essayer de reconstituer à la fois l'histoire personnelle et l'histoire du siècle, en quelque sorte. Hein. Et vous avez cette phrase là dans le premier chapitre. Il y eut ce rêve qui fut celui des hommes nés avec le vieux XXe siècle et qui disparut sans doute avec eux. Est-ce qu'on peut dire aussi que le XXe siècle finit plutôt le 11 septembre, par exemple ?
Sans doute, mais comme mon père est mort en 98, ce spectacle lui a été épargné, mais sans doute, peut-être que le XXe siècle commence en 1914 et se termine avec l'attentat terroriste sur les Twin Towers à New York. En même temps, moi, je décale un peu la chronologie, parce que je vais commencer le XXe siècle avec le vol des frères Wright, et donc avec l'invention de l'avion. Je triche un peu, mais c'est pour proposer une vision du XXe siècle qui soit un peu différente de celle qu'on présente d'ordinaire.
Est-ce que, justement, dans la disposition là, des neuf chapitres et des dates, est-ce que vous n'avez pas eu en même temps l'idée de mettre en place un petit peu comme ce qu'on appellerait dans l'aviation des balises entre lesquelles les avions passent, tournent et descendent, cherchent quand ils sont dans le brouillard, ils cherchent le terrain en descendant à plat, des balises. Moi, ça m'a évoqué cette image, je ne sais pas.
Oui, c'est des balises... J'allais dire qu'ils sont destinés aussi au lecteur, parce que dans un gros livre comme ça, le lecteur peut se trouver perdu. Donc du coup, il faut quand même lui faciliter un peu la tâche. Moi, j'ai très longtemps hésité sur la structure du livre. J'ai eu plusieurs idées successivement j'étais parti à un moment pour faire quelque chose de beaucoup plus complexe qui aurait mêlé véritablement les époques, et on retrouve ce brassage des époques dans le livre, mais malgré tout encadré dans une structure chronologique, parce que j'ai peut-être eu tort, hein, mais j'ai pensé que renoncer à la structure chronologique allait encore accroître la difficulté du livre. Et peut-être excessivement en raison des exigences des lecteurs, des exigences légitimes des lecteurs.
C'est-à-dire, oui, on a l'impression que c'est vrai que chaque chapitre reprend des thématiques, mais qu'il y a une thématique dominante pour chaque chapitre.
Voilà, c'est ça, oui. Ouais. C'est ça. Oui. C'est pas simplement une organisation chronologique, c'est derrière le leurre ou l'apparence ou l'architecture d'une structure chronologique, chaque chapitre est dominé par un thème ou par un lieu aussi. Hein. C'est par exemple Mâcon ou Alger ou les États-Unis, voilà. Parce qu'en fait, c'est un roman sur le temps, sur l'histoire, mais c'est aussi un roman qui fait voyager dans l'espace, ce qui est bien la moindre des choses pour un livre sur l'aviation. Et aussi d'où la très belle bande du livre, qui est en fait la reproduction d'un fragment, d'un détail du planisphère qui était utilisé dans les années 30 par Air France.
Est-ce que dans le premier chapitre, il y a aussi quand même quelque chose qui serait de l'ordre de l'éloge du progrès, quoi, en quelque sorte, du progrès technique?
Oui, parce que on écrit toujours un livre en réaction et par colère à l'égard de ce qui se dit, ou par frustration aussi à l'égard en raison de ce qui ne se dit pas ou ne s'écrit pas. Le progrès technique a très mauvaise presse aujourd'hui. Cela dit, il l'a bien cherché, si j'ose dire. Hein. Mais disons, il y a une sorte dans la doxa qui est celle des écrivains, des intellectuels, des philosophes. Il y a une mise en question systématique et radicale du progrès technique qui ne vient pas de Heidegger, mais qui trouve ses lettres de noblesse du côté de la dénonciation de la technique par Heidegger. Donc en réaction contre ça, moi j'ai voulu faire un livre qui soit l'éloge de la technique et l'éloge du XXe siècle. Bon, sans négliger bien sûr la dimension destructrice de la technique, parce que je mets en évidence aussi le fait que l'avion a été un instrument de destruction et de mort dès la Première Guerre mondiale, mais surtout pendant la Seconde. Mais en même temps, je trouve que la dénonciation systématique de la technique vire très rapidement à l'obscurantisme pur et simple. Donc, j'avais écrit dans la NRF, parce qu'on est dans une période de célébration, puisque il y a eu aussi il y a un an un numéro de la NRF qui était consacré au centenaire de la revue, de la Nouvelle Revue française. Et dans ce numéro, on demandait à un certain nombre d'écrivains d'aujourd'hui, de jeunes écrivains, j'étais pratiquement le plus vieux des jeunes déjà, et on leur demandait de choisir un texte de la revue, hein, et de le commenter. Et donc j'avais choisi un texte de Saint-Exupéry. Ça m'avait donné l'occasion de faire l'éloge de Saint-Exupéry et de rappeler notamment ce fait que je trouve assez amusant et qu'on rappelle assez peu, c'est que lorsqu'on demandait à Heidegger quel était pour lui le plus grand livre de littérature du XXe siècle, étrangement, il répondait « Le Petit Prince de Saint-Exupéry ». Et donc j'imaginais dans ce texte que Saint-Exupéry, s'il avait survécu à la mission de reconnaissance qui lui fut fatale en 1944, aurait pu peut-être proposer à Heidegger de lui faire faire un petit tour d'avion au-dessus de la forêt noire. Et je pense que ça aurait peut-être changé un peu Heidegger. Ça lui aurait peut-être fait un peu du bien, disons.
Que c'est vrai qu'un éloge de Saint-Exupéry, c'est particulièrement surprenant, enfin pour quelqu'un qui est un peu plus âgé. Et je veux dire, dans les années 60, faire l'éloge ou évoquer Saint-Exupéry, ça faisait s'esclaffer quand même tout ce qu'on comptait un petit peu de l'écrivain intellectuel à Paris et ailleurs. Hein.
Mais c'est amusant que vous disiez ça, parce que je dis dans le livre, et c'est vrai, par ma mère, je suis le cousin de Bernard Clavel, qui est mort récemment. Et je me rappelle que je n'ai jamais connu personnellement, enfin que je connaissais indirectement par le relais donc d'un certain nombre de personnes de ma famille. Et je me rappelle très précisément que ça fait écho exactement à ce que vous étiez en train de dire. Je me rappelle très précisément une émission de Droit de réponse de Michel Pollack, donc dans les années 80. Donc moi j'étais tout jeune à l'époque, je regardais ça. Et Bernard Clavel était invité sur le plateau en compagnie d'un certain nombre d'intellectuels, dont Philippe Sollers, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Mais à un moment, la conversation tombait sur Saint-Exupéry. Et effectivement, tout le monde se gaussait. Et Bernard Clavel disait, mais quand même, le petit prince, c'est pas rien, etc. Mais il passait vraiment pour un pour un paysan un peu lourdeau, à aimer Saint-Exupéry. Donc peut-être que l'heure est venue de réhabiliter Saint-Exupéry, encore qu'il n'en a pas vraiment besoin, parce qu'il y a tellement de millions de lecteurs à travers le monde.
Ceci dit, on peut ajouter quand même, c'est vrai que Pilote de guerre est quand même un livre assez extraordinaire.
Et d'une grande profondeur philosophique.
Une immense méditation sur l'ambiguïté et la dualité de la guerre et de l'horreur, puisqu'il y a ce passage où tout d'un coup le mitrailleur de queue qui voit tout le ciel s'embraser était là en train de pousser des exclamations en se disant je ne verrai pas ça, je suis pas prêt de revoir ça un jour. Avec une espèce d'émotion comme ça esthétique, un peu amorale.
Puis Saint-Exupéry est un très grand styliste. Je m'en suis aperçu en essayant de décrire le ciel ou de décrire ce qu'on voit d'un avion. Saint-Exupéry, il parvient de façon absolument époustouflante. Il y a une maîtrise du style qui est tout à fait remarquable.
Dans ce premier chapitre, vous posez aussi quand même d'emblée la problématique même du livre, du roman, c'est quand vous dites « ce souvenir du passé reviendrait à l'imaginer ».
Oui, je crois que c'est vrai.
Que c'est quand même déjà poser l'ambiguïté même du texte.
C'est quelque chose à quoi je me suis confronté depuis longtemps à travers mes romans et donc sur quoi j'ai été amené à réfléchir également dans mes essais, puisque tous mes livres sont autobiographiques. Il est évident que dès qu'on raconte sa vie, on la transforme en une fiction. Et même si tous les événements relatés sont vrais, ce qui est le cas dans mes livres, tout ce que je dis est vrai, pour autant que je le sache, parce que on m'a fait remarquer qu'il y avait un certain nombre d'erreurs dans le siècle des nuages, mais ce sont des erreurs involontaires, il n'y a pas de ma part de volonté de falsification. Et bien même quand tout ce qu'on dit est vrai, le seul fait de le raconter le transforme en fiction, c'est-à-dire en fable, en légende, en mythe. Et alors c'est encore plus vrai sans doute. La différence n'existe pas. C'est vrai également, disons, pour le récit rétrospectif qu'on fait, quoi. C'est-à-dire, moi, toutes ces choses-là que je raconte dans le livre, sauf dans les derniers chapitres, je ne les ai pas vécues. Donc je suis obligé de m'appuyer sur un matériau extrêmement fragile, extrêmement instable et incertain pour essayer de construire un récit. Donc j'imagine, oui, j'imagine.
En même temps, c'est, dans le fond, vous donnez aussi un air de jeunesse au roman lui-même, au mode du roman, en essayant de créer une autre façon justement d'aborder le récit d'une histoire, un peu, et en réfléchissant dans le fond à cette espèce de réflexion commune, quand tout le monde nous dit ma vie est un roman. Et vous, partant de ça, vous réfléchissez sur ce fait-là et vous le transformez et vous en faites un roman avec toutes les ambiguïtés de cet effort.
Mais je crois que c'est très vrai. Toute vie est un roman, la liberté à laquelle nous pouvons accéder, elle consiste à devenir en quelque sorte le romancier de sa propre vie. Comme on disait dans les années 60, à parler pour ne plus être parlé. Il y a une sorte de roman inconscient et spontané qui nous dicte à notre insu ce que nous devons être. Et nous plaçons ainsi dans une posture passive, qui est une posture d'aliénation. Donc se réapproprier sa vie pour en faire un roman dont on soit soi-même l'auteur, c'est un geste de liberté. Et ça passe pas nécessairement par l'écriture, la production d'un objet de papier. Je veux dire, mentalement, il s'agit aussi de réinventer sa vie en la transformant en un roman dont on produise le sens, ou peut-être le non-sens, mais en tout cas de manière délibérée.
Il y a en même temps une donnée un petit peu, moi, que j'ai trouvée un peu mélancolique dans le livre, c'est-à-dire que c'est toujours un livre qui est quand même hanté par l'échec, par la difficulté de tout saisir, et un peu rongé un peu par le risque de l'inutilité, vous dites là, à un moment donné, là, dans le chapitre 2, là, raconter n'est jamais l'affaire de ceux qui ont vécu et qui abandonnent à la manie mélancolique de quelques autres le soin de faire à leur place le récit pour rien de leur vie.
C'est... Ben oui, c'est vrai. Mais en même temps, enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, je pense que la création artistique, ça a beaucoup à voir avec la mélancolie, et on ne peut raconter les choses qu'une fois que celles-ci sont révolues. En même temps, il y a aussi chez moi, c'est peut-être moins apparent dans ce livre-là que dans d'autres, je pense notamment au précédent, le Nouvel Amour, il y a une volonté de conjurer aussi la mélancolie par l'écriture. Mmh. Et même la mélancolie peut être quelque chose de jubilatoire aussi. Donc, je l'assume.
Il y a la création, de toute façon. Oui. Depuis Platon, c'est bien que... Bon.
Oui, non, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai.
Mais d'ailleurs, votre livre, c'est plutôt aussi, en même temps, une réflexion sur comment naissent les légendes, en fait. Celle de l'aviation et celle de votre père.
Oui, comment naissent les légendes, comment naît cette légende-là, il y a une volonté de, enfin, il y a une volonté tout à fait consciente de ma part de m'affronter au genre de l'épopée. L'épopée, ça suppose le risque de la poésie, éventuellement jusqu'à l'emphase. Donc, il faut une certaine ampleur, il faut assumer une certaine ampleur. Et puis aussi, l'épopée, c'est le héros singulier qui est en même temps le porte-parole d'une histoire collective. Donc, tout ça a à voir effectivement avec le mythe. Mais c'est pareil, les mythes... les mythes sont la création des hommes, et donc j'essaye de promouvoir dans cette guerre finalement que les dieux se livrent, j'essaye de promouvoir le dieu qui me semble le plus profitable à moi-même et à l'humanité dans le panthéon. Donc c'est peut-être, je sais pas, Hermès, un dieu ailé, voilà, c'est ça. C'est mieux que Mars ou je sais pas qui d'autre.
Oui, mais en même temps, c'est vrai que Herbès, bon, le dieu ailé, l'aviation, vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a aucune création qui ne soit pas duelle, qui ne contienne pas une dualité, à la fois le bien et le mal, la meilleure et la pire des choses. Et bon, c'est ce qui se dit de la langue. Et en même temps, vous héritiez d'une lignée où il y a à la fois un pâtissier chocolatier et un libraire. Du côté de l'oralité,
oui, c'est vrai.
C'est quand même riche.
C'est vrai.
Mais vous dites aussi que cette chose qui fait que l'histoire singulière est aussi l'histoire de tout le monde, c'est l'histoire étant toujours la même, et c'est pourquoi elle est celle de chacun, et que celui qui se souvient d'elle se rappelle toutes les autres à la fois. C'est un appel un peu au partage, dans le fond, que chacun réfléchisse à sa propre histoire, parce qu'il y a peut-être matière à réflexion.
Ah oui, c'est la condition sine qua non de l'entreprise, parce que qu'importe ma vie ou celle de mon père ou celle de personnages plus importants, il s'agit de à partir d'une certaine forme de singularité de pouvoir accéder à l'universel. Donc, j'espère si le livre est réussi. Il intéresse dans la mesure où chacun y retrouve le drame de, enfin pas au sens de la tragédie, mais l'action, le drame de sa propre existence. Mais j'en ai fait de manière plus concrète par rapport à cette citation que vous avez donnée, j'en ai fait l'expérience, c'est-à-dire je me mettant à raconter l'histoire de mon père, je prends appui sur quelques souvenirs, je suis nécessairement amené à en inventer d'autres, et au bout d'un moment, je ne sais plus qui se souvient. Si c'est lui qui se souvient à travers moi, ou si c'est moi qui me souviens à travers lui, ça prend un tour assez particulier. Je commence à en avoir un peu l'expérience, puisque ça fait plusieurs livres de suite que j'écris à partir de mon expérience personnelle. On finit par ne plus savoir ce qui a été vécu et ce qui a été imaginé. Ma mère, lisant ce livre, me faisait la même remarque aussi. Et que maintenant qu'elle l'a lu, elle est incapable, enfin, sauf pour les grands événements, mais pour un certain nombre de choses, elle est incapable de dire si ses souvenirs, ce sont des choses qu'elle m'a racontées, ou si ce sont des choses que j'ai inventées. C'est d'ailleurs quelque chose de très troublant, parce qu'il y a un caractère très, très carnassier de la création littéraire, finalement, ou de l'imagination, tout simplement. L'imagination, la nature ayant horreur du vide, l'imaginaire investit tout espace vide. Et au bout du compte, on finit par se trouver exproprié de sa propre vie, de sa propre expérience, à partir de cette faculté qu'a l'imaginaire de se glisser partout.
C'est ce qui retrouve un petit peu, là aussi, le thème de l'étranger qu'on va voir apparaître dans le livre au fur et à mesure que le pilote va vieillir. Mais cette scène étrangère, on le retrouve aussi quand vous dites que le sentiment d'avoir été l'enfant d'un autre temps, que vous-même vous étiez le sentiment.
Oui, c'est-à-dire...
C'est aussi un peu étranger à soi-même, à son enfance en quelque sorte, tout en étant la sienne.
Oui, oui. Mais je crois que c'est aussi un livre sur la perception du temps. J'en parle notamment au début du roman. Bon, chacun d'entre nous le sait, hein, c'est-à-dire les souvenirs les plus récents viennent prendre la place des souvenirs les plus anciens. Donc, si je reprends l'exemple de mon père, je ne peux pas me rappeler mon père tel qu'il était à l'âge de 50 ans, quand moi j'en avais 10. Parce que tout simplement, si j'essaye de penser à mon père, les images de lui qui me viennent sont nécessairement les images les plus récentes. Donc pour moi, mon père est nécessairement un homme de 75 ans. Alors que je sais bien que je l'ai connu alors qu'il en avait seulement 40. C'est-à-dire que je l'ai connu à l'âge que j'ai moi aujourd'hui, enfin quand lui avait l'âge que j'ai moi aujourd'hui et que moi j'étais un enfant. Mais en même temps, on ne peut pas aller contre cette fatalité-là. C'est vrai donc pour les individus qu'on a connus, mais c'est vrai aussi pour l'époque elle-même. C'est extrêmement difficile de nous replacer mentalement dans le monde, dans les conditions concrètes d'existence qui étaient les nôtres. Par exemple, je prends pour moi, puisque je suis né en 62, les années 70. Et on a l'impression, notamment, d'avoir toujours utilisé des téléphones portables, d'avoir toujours utilisé des ordinateurs. Ça me frappait notamment... C'est vraiment une anecdote un peu légère, mais c'est pour détendre l'atmosphère. Je regardais, je ne sais plus quel film, je crois que c'était Les choses de la vie de Claude Sautet avec Michel Piccoli, et à un moment il a des problèmes, parce qu'il doit joindre sa maîtresse, je ne sais pas quoi. Et je dis, mais pourquoi il ne prend pas son téléphone portable? Et voilà. C'est ce que tout le monde fait aujourd'hui pour appeler sa maîtresse, c'est prendre son téléphone portable.
Alors, bon, il ne faudrait pas que vous croyiez que, parce qu'on a remué pas mal d'idées, que le livre soit très abstrait. C'est un livre, c'est vrai, qui est très intelligent, très, très travaillé, mais qui est en même temps très sensible. Ça raconte quand même une magnifique histoire d'amour. Quand même,
oui, il y a aussi cette dimension-là, oui. Ah. Oui, puisque donc... Mon père et ma mère se sont rencontrés alors qu'ils avaient respectivement 18 et 17 ans, le 17 juin 1940, sur les routes de l'Exode. Parce qu'il se trouve que la famille de ma mère possédait une voiture, mais personne pour la conduire, puisque mon grand-père maternel était mobilisé à l'époque, comme capitaine d'artillerie. Mon père, lui, était à vélo, mais était supposé avoir pas le permis de conduire, quand en réalité, il n'avait pas encore passé, parce qu'il avait préféré passer son brevet de pilote plutôt que son permis de conduire. Enfin, il s'est retrouvé donc à conduire la voiture de ce qui allait devenir sa belle famille, mais bien sûr, à l'époque, il l'ignorait. Donc c'est un côté très, très romanesque, très, très romantique.
Oui, alors là, il apparaît un petit peu comme le chevalier servant.
Oui, c'est ça. Je l'imagine aussi, mais malgré tout, à partir de ce que je sais de ce qu'était sa personnalité, où il y avait un côté très, très romantique aussi chez lui. Et donc, j'imagine qu'il a dû être saisi par l'opportunité qui lui était donnée, comme ça, de sauver une demoiselle et plusieurs dames en détresse.
Mais en même temps, le chapitre qui est très, très beau, met aussi en évidence la contradiction entre les témoignages, parce que la version du père et la version de la mère ne sont pas du tout les mêmes.
Oui,
elle ne semble pas, en tout cas n'a pas avoué la même émotion que lui-même a restituée.
Oui, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui me semble important et que j'ai toujours essayé de faire dans mes livres, c'est de... Enfin, à tel point que c'est peut-être un peu systématique, je ne sais pas, mais de mettre en contradiction systématiquement le point de vue masculin et le point de vue féminin. Moi, c'est Hegel, je crois qu'il disait que la femme, c'est l'ironie de la communauté. À chaque fois, le point de vue féminin, c'est celui qui vient contredire, relativiser, ironiser, approché par la moquerie, le point de vue masculin. Il y a une sorte d'arrogance dans le discours masculin. Et notamment lorsque ce discours masculin prend la forme d'une œuvre littéraire. Donc il faut donner la parole dans les livres au point de vue féminin qui vient un peu dégonfler la baudruche de la prétention masculine.
Alors là commence une histoire... C'est Tristan et Isolde, un peu.
Oui, mais c'est justement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire chacun d'entre nous se fait le romancier de sa propre vie. Et donc le mythe qu'a sollicité mon père pour donner sens à cette rencontre avec cette jeune fille, c'est le mythe de Tristan et Isolde, parce qu'ils ont bu à la même fontaine au cours de l'Exode, ils se sont arrêtés dans une ville dont ils n'ont même pas retenu le nom, c'était même pas une ville, c'était un village, donc sur la route qui conduit de Mâcon à Nîmes. Et donc ils ont bu à cette fontaine, et plus tard, lorsque mon père et ma mère ont été fiancés, mon père qui était en Algérie a adressé à ma mère comme cadeau pour son 20e anniversaire un exemplaire de Tristan et Isolde, avec une dédicace que je reproduis à la toute fin du livre, et une dédicace où, très belle d'ailleurs, dans le genre romantique, où il compare donc cette fontaine à laquelle ils ont bu, enfin l'eau qu'ils ont bu de cette fontaine à l'eau du filtre qui a uni Tristan et Isolde. On m'a fait remarquer à Mâcon, parce que j'y suis allé récemment pour présenter le livre, que j'avais quand même commis une grosse erreur, c'est que je l'ai fait passer par le pont Saint-Laurent, parce que ça me semblait très beau, plus que romanesque, cinématographique, presque hollywoodien, d'imaginer la voiture qui passait sur le pont Saint-Laurent qui traversait la Saône. Mais on m'a fait remarquer là-bas que s'ils avaient traversé le pont Saint-Laurent, ils auraient pris la direction qui les aurait conduits directement vers les troupes allemandes. Parce qu'en fait, pour aller vers le sud, il ne faut pas traverser le pont Saint-Laurent. Donc voilà.
Bon, donc c'était pas le pont Saint-Laurent. Alors, la situation, d'ailleurs, met en évidence que du chaos... peut naître une situation ô combien positive et créatrice, puisque c'est quand même tout démarre alors que toute la France s'écroule.
Oui, bah, y a une ironie dont je joue, qui est le contraste entre l'écroulement d'un monde, parce qu'on peut vraiment dire ça, mai 40, ça a vraiment été l'écroulement d'un monde, et l'idylle qui se développe. Dans ce contexte-là, c'est pareil. Au chapitre suivant, j'évoque le fait qu'ils se sont fiancés en juillet 42, si ma mémoire est bonne, c'est-à-dire à quelques jours des premières grandes rafles qui ont marqué le vrai début, disons, de la déportation massive des Juifs de France, et notamment à Mâcon, même si à Mâcon ça s'est passé de manière moins violente et moins systématique qu'à Paris, comme on le sait. Donc il y a aussi un contraste là que je voulais mettre en évidence, et que je fais apparaître à partir d'un autre personnage secondaire, qui est le personnage de mon grand-père maternel, que je n'ai jamais connu, mais comment dire, que je me suis mis à bien aimer à mesure que je l'inventais. Parce que, enfin, d'après ce que ma mère m'en racontait, mais c'est un peu normal, les filles sont souvent amoureuses de leur père, donc ma mère avait beaucoup plus de choses à raconter sur son père que sur son mari. Et donc, c'est un homme qui avait l'air assez attachant, et qui parce qu'il était, il avait été nommé directeur du centre de démobilisation de Mâcon, a eu l'occasion d'aider un certain nombre de personnes à fuir la menace que faisait peser sur eux la politique du gouvernement de Vichy. Donc je montre comment ces deux jeunes gens sont complètement absorbés par leur idylle, et après tout, il faut leur donner raison, je veux dire. Et je montre en contrepoint comment il peut y avoir une conscience plus inquiète du présent chez cet homme qui a une autre expérience, parce que c'est un héros de la Première Guerre mondiale, c'est quelqu'un qui est un peu désabusé, parce qu'il a une cinquantaine d'années, et qui a une conscience plus aiguë.
C'est sa deuxième guerre.
C'est sa deuxième guerre.
Mais il dit, c'est lui qui, pensant qu'on a toujours raison d'être heureux, et leur donnant ainsi pour finir ses bénédictions silencieuses.
Ben je pense, enfin c'est moi qui parle un peu à travers lui, mais je pense que c'est pas complètement invraisemblable.
Alors, on parlait tout à l'heure de Saint-Exupéry. Dans le fond, votre père a commencé par l'inverse. Il a été jardinier et aviateur. Oui. Et Saint-Exupéry, lui, disait que s'il avait pu choisir, il serait devenu jardinier.
Oui.
Donc, c'est à ce... En même temps, se pose, vous posez là, dès le quatrième chapitre là, le problème du que sait-on d'un père, hein, mmh. Que le silence des pères.
Que sait-on d'un homme déjà non,
que sait-on d'un
et a fortiori d'un père. Ouais. J'hésite un peu à généraliser, mais il me semble malgré tout que le silence paternel c'est quelque chose d'assez répandu, sinon universel. Mmh. Et j'essaye de montrer que c'est pas forcément une mauvaise chose, voilà. Parce qu'il me semble, mais là aussi, hein, je généralise un peu abusivement, je le fais là à l'oral, mais j'essaye de me prémunir un peu contre cette tentation dans le livre, pour ne pas être trop pontifiant, mais il me semble malgré tout qu'il n'y a rien de pire qu'un père qui essaye d'imposer ses propres valeurs à un fils, et que le silence est plutôt une sorte de retrait qui permet que se développe la liberté de son enfant. Donc les pères, à mon avis, ont raison de se taire.
Les pères se trompent, de toute façon.
De toute manière.
Donc, vous décrivez donc l'aventure... Parce que, en fait, l'aventure de ce pilote est assez exceptionnelle, quand même.
Oui, c'est très romanesque aussi.
Quand même, puisqu'il peut... Alors, non seulement... Bon, alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect... Bon, déjà, vouloir être pilote, c'est quand même essentiellement romanesque. C'est quand même très romanesque, surtout de tout temps, même encore un peu maintenant. Et il y a son parcours.
Oui.
Qui est quand même... Peu ordinaire.
Mais oui, parce qu'en fait, il passe son brevet de pilote, il n'a pas encore 18 ans, parce qu'il profite de quelque chose qui a été assez important, mais qui bien sûr est un peu oublié, aujourd'hui sauf des spécialistes, c'est la mise en place par le gouvernement du Front Populaire, donc à partir de 1936, notamment par Pierre Cotte et Jean Moulin, mais un Jean Moulin dont personne à l'époque ne savait qu'il deviendrait le héros de la résistance que l'on sait maintenant. Donc la mise en place d'un programme qui était le programme de l'aviation populaire, et qui visait à former... des tas de jeunes pilotes par la mise en place d'un système qui est en gros le système des aéroclubs, mais dans la perspective de préparer l'affrontement avec l'Allemagne et avec l'Italie. Et donc dans ce cadre-là, il y a eu plusieurs milliers d'adolescents à travers toute la France qui ont appris à piloter. Alors bien sûr des avions de tourisme, c'était le cas de mon père. Et il avait l'ambition de passer le concours de l'école de l'air. Mais bien sûr, après la défaite, ça n'était plus possible parce qu'il n'y avait plus d'armée française, plus d'aviation française, sinon sous une forme résiduelle que tolérait l'occupant. Et donc, il est parti en Algérie. Il a passé un autre concours, qui était le concours d'ingénieur agronome. Et l'une des principales écoles... qui formait au métier d'ingénieur agronome, elle se trouvait à Maison Carrée près d'Alger, et donc il s'est trouvé là-bas notamment en novembre 1942 lorsque les Anglais, les Américains ont débarqué et ont libéré l'Afrique du Nord, et c'est ce qui lui a permis, grâce à la formation dont il bénéficiait déjà, je pense, de pouvoir partir pour les États-Unis pour être formé là-bas comme pilote de chasse dans l'aviation américaine. Donc il y avait une sélection très dure par laquelle devaient passer les jeunes Français qui partaient aux États-Unis. Et donc il a passé avec succès toutes les épreuves de sélection, si bien qu'il s'est retrouvé breveté sur P-47 Thunderbolt, qui était un des gros avions de la chasse américaine à l'époque. Mais dans la mesure où il était parmi les meilleurs de sa promotion, on lui a refusé l'autorisation d'aller combattre dans une unité sur le front européen. Il a été nommé instructeur. Et donc, il a été chargé de former d'autres pilotes français qui venaient après lui. Et la guerre s'est arrêtée en Europe. Et lui, il souhaitait revenir maintenant que la guerre était finie. Mais simplement... L'armée américaine voyait ça d'un autre œil, parce que ses pilotes avaient été formés par elle, et donc il était sur le point d'être envoyé sur le front du Pacifique lorsque le bombardement nucléaire d'Hiroshima puis celui de Nagasaki ont mis fin à la guerre Et après, il est rentré comme pilote, donc à Air France.
Il fait partie de ces soldats sauvés par Hiroshima, en quelque sorte. Oui,
mais j'insiste là-dessus parce que c'est une saveur un peu ironique aussi dans mon cas, même si je laisse le lecteur deviner ça plutôt qu'autre chose. Parce qu'un de mes romans précédents, Sari Nagara, était consacré à Hiroshima et Nagasaki. Et notamment, j'y montrais, après les historiens, mais... c'est une vérité qui a du mal à passer. J'y montrais que... Enfin, ce qu'on sait maintenant, c'est-à-dire que le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki était quelque chose d'assez gratuit. Enfin, que le Japon était sur le point de capituler et qu'avec un peu plus d'insistance ou d'habileté diplomatique, le Japon se serait rendu sans qu'on ait besoin de commettre cette double horreur à quoi correspondent les bombardements donc d'Hiroshima et de Nagasaki. Mais en même temps... peut-être que je dois mon existence à ce bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, puisque si mon père avait été envoyé sur le front du Pacifique, rien ne dit qu'il en serait revenu, quoi. Surtout que c'était une époque quand même assez, assez violente, parce que c'était l'époque des kamikazes.
Et alors, c'est intéressant d'ailleurs parce que vous dites là, parce que cette évocation, elle est assez teintée de mélancolie, enfin de tristesse, enfin de remords implicites en quelque sorte. Et il y a quelqu'un c'est William Styron qui dans un de son livre où il aborde son épisode dépressif intense, il faisait lui aussi partie des troupes qui s'entraînaient pour débarquer au Japon et disait lui-même qu'il avait été sauvé par donc par Hiroshima, et en fait son sentiment de survivant était directement associé et lié à son épisode dépressif avec un autre. C'est que c'était en même temps très, très difficile à vivre pour lui à ce moment-là.
Oui, je pense qu'il y a le complexe du survivant, j'ai pas lu ce livre, mais et il y a aussi la frustration de ne pas... Enfin, c'est une, je pense, je peux parler en termes trop psychanalytiques, mais c'est une sorte de blessure narcissique aussi, quoi, en fait, de ne pas avoir été mis en situation de combattant, quoi.
D'ailleurs, vous le dites d'ailleurs très bien, car ils jouent à la guerre, mais ils ne la font pas. C'est le côté un petit peu comme il y a dans le fond dans le parcours de ce pilote un air d'enfance qui dure, quoi, en quelque sorte. Hein.
Oui, parce que c'est comme s'il y avait une sorte de providence qui le protégeait à chaque fois. C'est la guerre, 17 juin 1940, ils prennent leur voiture, ils partent, ils rencontrent pas un seul Allemand, et finalement ils vont pique-niquer auprès d'une fontaine entre Macron et Nîmes, et après il part en Algérie, et voilà, et à nouveau il veut s'engager, il traverse l'Atlantique dans des conditions quand même assez, assez périlleuses, il est formé, il y a beaucoup de ses amis qui meurent parce que les épreuves de sélection sont très violentes, donc il y a beaucoup d'accidents, et à chaque fois il croit qu'il va enfin faire la guerre, et puis finalement il ne la fait jamais, quoi. Mais en même temps, mon livre, c'est plus un éloge de l'aviation civile que de l'aviation militaire, parce que je pense que c'est surtout là-dessus que je veux insister, parce que je pense que l'aviation, ça a été quand même une utopie liée à des idéaux de progrès et de comment dire, de fraternité, oui, on peut dire,
de
entre
lien.
Les hommes.
Ouais,
c'est ça,
de
ouais.
lien.
C'est ça, ouais. La ligne, c'est
voilà.
le lien. Ouais.
Voilà, de lien. Dans le fond, oui, parce que c'est au chapitre 7, là, c'est bon. Vous présentez un petit peu justement l'aventure aérienne civile comme l'oubli de l'horreur aérienne.
C'est ça, oui.
Et il s'associe, dans le fond, en même temps, aussi à l'amour fou.
Oui, ça, c'est la dimension romantique du livre.
Donc, parce qu'ils vont finir par se retrouver.
Ils vont finir par se retrouver, par se marier. Ils se marièrent, je ne sais pas s'ils vécurent heureux, mais ils eurent pas mal d'enfants, parce qu'on a été 5. Enfin, en même temps, la fin du livre montre que tout ne fut pas non plus un long conte de fées, mais bon.
Oui, c'est-à-dire que lui-même, dans sa carrière, vous le montrez très bien, de pilote civil... à une carrière, c'est presque, vous présentez dans le fond une activité qui est très romantique comme une routine assez exceptionnelle, mais en fait quand même très Oui, quelque chose presque de banal, quoi, en quelque sorte. Hein, quelqu'un qui part et qui revient, bon, voilà, à qui il n'arrive pas grand-chose, somme toute.
Mais oui, parce que sa chance professionnelle, en tout cas, l'a accompagné toute sa carrière. Mmh. C'est-à-dire, il n'a jamais eu de véritable accident. Il n'a jamais eu l'occasion, et peut-être qu'il l'a regretté, de faire des prouesses pour sauver son appareil. Bien que j'étais obligé vraiment de monter en épingle un tout petit instant.
Ça aurait pu être un
crash, mais de monter en épingle le seul véritable gros problème pépin, comme disaient les pilotes, qu'il a rencontré dans sa carrière. Mais oui, j'insiste sur la routine, mais c'est la routine du pilotage, mais c'est aussi quelque chose qui, moi, m'a marqué en tant qu'enfant et qui, je pense, a durablement façonné ma personnalité, c'est-à-dire l'expérience concrète du pilote de ligne, du pilote de long courrier. C'est quelque chose de très particulier quand même, parce que c'est une expérience par laquelle on flotte en permanence à la fois dans l'espace et dans le temps. Et à partir de là, ça induit un rapport au monde qui est quand même tout à fait particulier, qui je pense, moi m'a marqué sans être pilote, et je pense a influencé un peu mon propre tempérament. Je raconte dans le livre notamment ce petit trait qui m'a beaucoup frappé quand j'étais enfant, c'est le fait que mon père avait sa montre réglée en GMT, c'est-à-dire sur le méridien de Greenwich, comme c'est le cas de tous les pilotes, parce qu'ils vont pas s'amuser à changer leur montre chaque fois qu'ils changent de fuseau horaire, et que du coup, ils n'étaient pas dans le même temps que nous, c'est-à-dire qu'on lui demandait l'heure, il précisait toujours avec un peu de coquetterie qu'il nous la donnait en GMT et pas en GMT plus 1. Mmh. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un père qui est dans un autre espace, un autre temps que celui où, dans lequel soi-même on évolue? Je pense que ça produit un certain rapport fait de relativité au monde. Enfin bon, c'est ce que j'aime me raconter à moi-même.
Oui, que vous décrivez comme quelqu'un qui passe. Hein,
voilà,
comme...
ouais. Et qui revient.
Et qui revient, ouais. La notion des nuages est présente. Il y a le poème de Baudelaire, hein, que l'étranger, c'est celui qui aime les merveilleux nuages.
Ouais. Qui n'a ni père, ni mère, ni famille, ni patrie, qui est l'or et qui déteste Dieu. Et voilà.
Mais c'est ce qui fait d'un père une légende, quoi, aussi.
Oui, oui. Oui, c'est un livre. Quelqu'un me faisait remarquer ça. Il y a le livre de Pierre Michon qui s'intitule Vie minuscule et qui a donné naissance à, on peut dire, une sorte de genre. Mm-hmm. Et quelqu'un me faisait remarquer que ce livre, mon livre, n'était pas un livre sur les vies minuscules, mais plutôt un livre sur les vies majuscules. Il n'y a pas de différence entre une vie minuscule et une vie majuscule, sinon le regard qu'on jette sur elle. Mais. Oui, c'est un peu un livre sur des géants d'un autre âge.
Mais en même temps, nous sommes tous des visiteurs qui passent parmi ces paysages. Donc on retrouve le Wanderer. Et le Wanderer, quand même, votant à la fin, c'est lui. Hein. Donc chaque voyageur est une sorte de dieu aussi.
Oui, aussi. Ouais.
Mais nous allons en rester là et vous remercier.
Non, mais c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.